podcast RFHT.
Bonjour à tous, je suis Ania Roche, pédiatre à l'hôpital Necker à Paris. Dans le podcast précédent, nous avions discuté du déficit sévère en protéine C, du contexte au diagnostic en période néonatale le plus souvent, avec un tableau clinique sévère de thrombose et surtout de purpura fulminans et parfois de CIVD. Et ce tableau va nécessiter une prise en charge urgente et spécifique qui va se poursuivre ensuite tout au long de la vie du patient. Et c'est donc ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Et je suis de nouveau accompagnée de ma collègue, le docteur Valérie Proul.
Oui, bonjour Annie, effectivement. Donc, moi je suis Valérie Proul et je suis médecin biologiste et je travaille dans le service d'hématologie biologique et l'UF d'hémostase clinique de Cochin. Et je suis absolument ravie de te retrouver et de vous parler à nouveau de ce déficit sévère en protéine C pour une autre période de la vie qui est de la transition de l'enfance à l'adolescence qui est particulièrement délicate.
Merci Valérie donc d'être encore aujourd'hui avec moi. Alors, la prise en charge de ces patients débute bien sûr en période néonatale par un traitement substitutif, une supplémentation spécifique en protéine C associée à une anticoagulation. Puis, la prise en charge va se poursuivre dans l'enfance. Cette anticoagulation est en effet nécessaire toute la vie du patient et doit s'adapter notamment aux gestes invasifs auxquels on doit être vigilant, notamment dans les relais entre antivitamine K et héparine, HBPM notamment. Ensuite, il peut y avoir des séquelles de cette période néonatale si le tableau a été sévère initialement. Il peut y avoir des séquelles orthopédiques liées au purpura fulminans et certains patients peuvent évoluer jusqu'à l'amputation. Des séquelles neurologiques de l'atteinte cérébrale existent également, des séquelles ophtalmologiques de l'atteinte cornéenne ou rétinienne. Et toutes ces complications sont à prendre en charge de manière très attentive dans l'enfance, dans le suivi du développement, de la croissance de ces enfants, des aides rééducatives que l'on peut apporter sur le plan orthopédique, neurologique, etc. Et les familles sont aussi très impactées. Les aidants, qui sont bien sûr le plus souvent les parents, ont un quotidien parfois difficile dans le suivi et l'évolution de cette pathologie. Ces aidants donc, doivent être formés et informés de tout ce qui concerne la maladie, le risque notamment d'une mauvaise anticoagulation déséquilibrée, par exemple. Il y a souvent une nécessité de prise en charge en hospitalisation à domicile, donc une HAD qui est mise en place avec un réseau ville-hôpital qui va se développer autour d'eux, autour de la famille, autour de ces enfants, avec des infirmières libérales, des laboratoires de biologie pour la surveillance de l'anticoagulation. Le traitement est en effet donné au domicile, parfois en intraveineux pour la substitution en protéine C au moins dans les premiers mois de vie. Ces patients ont parfois des cathéters centraux pour les perfusions. Ils sont perfusés par les infirmières qui viennent au domicile. Et puis l'anticoagulation également, elle est initialement faite par HBPM dans les premiers mois de vie, donc administrée par voie sous-cutanée, ce qui va nécessiter aussi un soin infirmier en même temps que les perfusions. Et donc toute cette prise en charge est partagée entre l'hôpital, la consultation dans le cadre du suivi et cette prise en charge ambulatoire avec un relais souvent au domicile par les soignants. Et donc basé sur nos expériences de quelques patients pris en charge, je vais passer maintenant la parole à Valérie qui va un petit peu nous parler de cette expérience de prise en charge de patients.
Alors effectivement, merci Annie. Moi, dans mon expérience personnelle, j'ai eu beaucoup de chance puisque la précocité du diagnostic de ce patient atteint de déficit en protéine C a fait que nous avons permis d'éviter les séquelles dont tu parlais, les séquelles ophtalmologiques, mentales ou de motricité, car le bébé en fait a eu l'extrême chance de recevoir des concentrés de protéines C dès ses premières heures de vie et de n'avoir pas présenté de thrombose intra-utérine avec des séquelles majeures. Alors chez lui, l'enjeu de cette période néonatale puis de son enfance était de maintenir un équilibre, donc particulièrement difficile dans cette période de croissance entre une anticoagulation efficace qui permet d'éviter l'apparition des complications thrombotiques, mais aussi d'éviter les complications hémorragiques. Et tout cela en donnant un accès quand même en dehors d'épisodes, lors de ces épisodes aigus, le plus rapidement possible, donc à la famille, à des structures aptes à prendre en charge ces manifestations, qu'elles soient thrombotiques ou hémorragiques, qui pouvaient à chaque fois menacer le pronostic vital de l'enfant. Donc en pratique, nous avons utilisé les antivitamines K en surveillant régulièrement l'INR dans les périodes hors accident aigu, et des injections intraveineuses de protéines C en milieu hospitalier dès les moindres signes cliniques, des injections quotidiennes, puis en prophylaxie à plus ou moins long terme, en espaçant ces injections intraveineuses selon que les accidents nécessitaient une interruption et une réadaptation du traitement anticoagulant oral plus ou moins long. Alors, c'est vrai que ces premières années ont nécessité une implication, une information et une éducation familiale vraiment extrême pour établir des relations de confiance qui étaient absolument indispensables entre la cellule familiale et la structure hospitalière et médicale qui devait rester hyper disponible. Et en fait, nous, localement, on avait mis en place dans les structures d'urgence hospitalière un protocole de prise en charge complètement adapté à cet enfant, qui avait été basé sur les données biologiques recueillies au cours du temps, initialement, comme les données de pharmacocinétique de récupération de la protéine C en intraveineux chez lui, et aussi une connaissance vraiment parfaite et actualisée là aussi au cours du temps des paramètres du bilan d'hémostase optimal qui reflétait une anticoagulation efficace en termes d'INR et des autres paramètres biologiques incluant les dédimères. Et en fait, ce qui a été important au cours du temps, dans cette phase de transition enfance-adolescence, ça a aidé en fait de transférer toute cette connaissance et cette confiance de la cellule familiale à l'enfant, puis à l'adolescent, pour qu'il s'approprie réellement sa pathologie et en fait qu'il apprenne à connaître les signaux, à la fois les signaux d'alerte de tendance hémorragique, mais aussi de tendance thrombotique pour pouvoir prendre contact avec nous dès les premiers instants et adapter vraiment ce traitement au risque qui était actuel. Donc, on a dû gérer, bien sûr, l'insertion dans le milieu scolaire, gérer au maximum les évictions scolaires, la mise à l'écart des groupes d'enfants pour lui permettre de participer au maximum aux sorties scolaires, d'envisager son avenir professionnel, ce qui est bien sûr quelque chose qui est totalement normal pour toutes les maladies chroniques, mais avec la particularité quand même dans cette période de transition de la recherche d'identité avec cette pathologie qui est rarissime, de gérer un traitement anti-vitamine K avec un risque hémorragique et un risque thrombotique qui pouvait le mettre en jeu son pronostic vital. Alors bien sûr, il y a eu des années qui ont été plus compliquées que d'autres, avec des accidents hémorragiques ou thrombotiques, des longues périodes d'hospitalisation, s'il y a eu des chirurgies urgentes ou programmées, notamment on a dû le prendre en charge pour des malformations cardiaques ou des complications thrombotiques hémorragiques ophtalmologiques, avec des mises en place de prophylaxie par la protéine C à long terme en intraveineux, avec tout ce que ça peut avoir de complications et de lourdeurs associées à ce type de traitement. Mais finalement, bon an mal an, en fait, grâce au traitement anti-vitamine K et à cette prophylaxie en protéine C par voie intraveineuse, ça lui a permis de se développer normalement, d'avoir des activités sportives, y compris même ce qui nous a terrorisé pendant quelques temps, mais de faire du ski, et puis finalement d'envisager un avenir professionnel à peu près comme un jeune de son âge. Donc voilà, nous, notre expérience était un traitement anticoagulant par AVK et des injections intraveineuses de protéines C en prophylaxie à plus ou moins long terme, dans le long cours, avec bien sûr des hospitalisations et des adaptations de traitement et des accidents, bien sûr qu'on ne pouvait pas réellement éviter, mais de type hémorragique ou thrombotique, mais finalement une vie relativement normale pour une pathologie très grave et très rare.
Alors en effet, merci Valérie d'avoir mis l'accent sur cette période de transition. C'est vrai qu'il s'agit d'une période un peu délicate de la vie de ces patients au moment de l'adolescence, une période de transition vers l'âge adulte qui parfois va fragiliser un peu la prise en charge et le suivi. Et en effet, il va falloir être attentif à cette période, essayer de l'anticiper au mieux. Le risque est, comme tu l'as dit, surtout lié à l'observance de la prise des médicaments et revoir apparaître un risque en particulier thrombotique hein, majeur dans ces déficits sévères. Et donc, anticiper la transition vers l'âge adulte, c'est expliquer les risques de la maladie, expliquer l'importance de cette observance, bien informer le jeune patient, et puis aussi le médecin qui va le prendre en charge par la suite avec tous les éléments de son histoire médicale. Parfois, la transition peut être multiple avec un hématologue, bien sûr, mais aussi parfois un neurologue ou un orthopédiste. Et il est donc important de bien soigner toutes ces étapes de la transition et de prendre le temps de le faire. Alors, on débute en général à l'adolescence, vers l'âge de 12, 13, 14, parfois un peu plus tard, 15 ans, pour que vers l'âge de 18, 20 ans, le patient puisse être suivi en milieu d'adulte avec toutes les informations nécessaires à sa bonne prise en charge. Alors évidemment, toutes les infos sont données initialement aux parents, puis à l'enfant, et puis aux médecins et aux équipes médicales qui vont le prendre en charge par la suite. Alors parfois, le patient est obligé de changer de structure hospitalière, de passer d'un service de pédiatrie à un service d'adulte, parfois dans le même hôpital, mais parfois dans un autre hôpital. Et donc, ça n'est pas toujours simple de changer d'équipe, d'environnement, de mode de prise en charge. Et donc, comme c'est une pathologie sévère, grave, avec, comme on l'a dit parfois, des séquelles, eh bien, il faut essayer de s'appliquer à organiser cette transition vers le monde adulte, eh bien, du mieux possible, le risque étant donc la mauvaise observance avec un risque thrombotique, bien sûr, sévère, mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, un risque hémorragique potentiel si les traitements anticoagulants ne sont pas correctement surveillés, par exemple. Et donc, la prise en charge dans des centres experts de ces deux risques, finalement, et thrombotique et hémorragique, va être essentielle dans la prise en charge de ces patients. Et en pédiatrie, c'est souvent fait hein, dans les centres experts de type CRTH. Et puis, la transition vers les services d'adultes est aussi à faire du mieux qu'on le peut, en tout cas, vers des structures d'hématologie ayant également cette même expertise. Alors, comme on l'a dit, le point important est donc le traitement anticoagulant, notamment les AVK, évidemment, avec leur équilibre qu'on doit maintenir dans cette période un peu délicate de la transition, mais peut-être vers des nouveaux médicaments à l'avenir dans cette indication. Et donc, je vais te repasser la parole, Valérie, pour discuter de cet aspect des thérapeutiques nouvelles dont on dispose aujourd'hui qui pourraient avoir une indication dans cette pathologie.
Oui, merci Annie. Alors, on a une chance avec le déficit sévère en protéines C, c'est que en fait, sont parues des recommandations internationales en 2022 de notre société internationale d'hémostase, donc c'est l'International Society of Thrombosis and Hemostasis, l'ISTH, et les sous-comités de l'ISTH ont fait paraître deux recommandations qui sont extrêmement claires, synthétiques, très pratiques, à la fois pour le diagnostic biologique de cette pathologie rarissime et sur la prise en charge clinique et thérapeutique de ce déficit sévère en protéine C qui est basé sur l'expérience clinique et les publications de ces 40 dernières années et qui est adaptée à la pharmacopée qui est disponible actuellement. Donc, ces recommandations de l'ISTH proposent un histogramme de prise en charge qui est adapté à la disponibilité des concentrés de protéines C, qui, en Europe et dans les pays anglo-saxons, reposent sur deux produits d'origine plasmatique. Donc, dans ces recommandations, la seule anticoagulation recommandée à ce jour, outre bien sûr les héparines injectables, qui sont réservées aux situations d'urgence, reposent sur les antivitamines K à long terme. Alors, Bien sûr, vous savez maintenant qu'il y a des anticoagulants oraux directs. Il y a diverses molécules, mais à ce jour, il n'y a que deux cas décrits de déficit sévère en protéine C pour lesquels ces nouvelles molécules ont été utilisées. En tout cas, en 2022, deux cas, l'un a utilisé l'edoxaban et l'autre le rivaroxaban. Alors bien sûr, il n'y a absolument pas du tout assez de données et probablement qu'il n'y en aura jamais assez hein, à cause de la rareté de cette pathologie pour obtenir une AMM ou des recommandations internationales pour ce traitement. Mais peut-être peut-on espérer que sur les données, dans les années à venir, issues de cas de case report publiés dans la littérature, peut-être que ces molécules prises par voie orale pourraient être une alternative au traitement par antivitamine K, avec du coup une épargne du capital veineux qui éviterait une surveillance biologique qui est quand même extrêmement impactante pour les AVK pour maintenir un INR cible. Et en espérant que, comme pour les autres pathologies pour lesquelles elles sont utilisées actuellement, ces anticoagulants oraux directs puissent avoir une efficacité anticoagulante efficace, clinique, avec une marge thérapeutique relativement rare. Donc ça, c'est pour le traitement anticoagulant. On peut espérer peut-être que l'utilisation de ces molécules soit une alternative aux antivitamines. Alors, concernant le traitement substitutif, l'administration de protéines C, dans la publication de l'ISTH, et ceci bien qu'il n'y ait pas d'AMM là non plus officielle pour une administration en prophylaxie à long terme par voie sous-cutanée, les recommandations incluent d'emblée l'administration de cette protéine C en sous-cutanée possible si cela est toléré par le patient, sa famille et efficace en termes de récupération et de pharmacocinétique. Cette administration par voie sous-cutanée est déjà proposée dans l'organigramme décisionnel et ceci basé sur des publications qui sont déjà très anciennes hein, puisque la première administration de protéine C par voie sous-cutanée date de 1996 et qui a maintenant des données d'efficacité d'administration par cette voie relativement importante disponible actuellement. Donc il faut peut-être aussi dire que l'Inde s'est concentrée en protéines C plasmatiques disponibles actuellement, vient d'obtenir une AMM pour une administration de protéines C en prophylaxie à long terme, puisque ce n'était pas encore le cas pour les deux molécules, donc une prophylaxie à long terme qui inclut possiblement la voie d'administration en sous-cutanée. Donc cette AMM vient d'être obtenue aux États-Unis et il faut savoir qu'elle est en cours de demande pour la France et l'Europe. Et donc c'est un espoir que finalement, dans les années à venir, on puisse envisager un traitement qui pourrait, de par la diminution de l'impact et de la lourdeur d'administration, bien sûr dans une administration au long cours, hein, mais pas pour les situations d'urgence, une administration au long cours par des médicaments anticoagulants oraux qui ne nécessitent pas de surveillance aussi impactante que les AVK, associés de manière ponctuelle à plus ou moins long terme en prophylaxie, à de la protéine C qui pourrait elle aussi s'administrer par une voie autre que la voie intraveineuse en sous-cutanée, ce qui serait bien sûr une révolution pour ces patients atteints de pathologies très rares qu'est le déficit sévère en protéine C.
Merci beaucoup Valérie pour cet échange. Alors, le déficit en protéine C dans sa forme sévère reste une pathologie très rare, avec une prise en charge complexe, spécifique, qui va nécessiter un suivi spécialisée, adaptée. Alors, on a abordé des points importants, hein, la transition, la prise en charge thérapeutique, les dernières recommandations. Alors, voilà, j'espère que cette discussion a été enrichissante pour nos auditeurs et je vous dis à bientôt, peut-être, pour un prochain podcast. Merci beaucoup.
Podcast RFHT.